Culture Club, une émission présentée par Victor Loupan.
Bonjour à tous, Culture Club Peinture. Aujourd'hui, on va parler d'une grande exposition qui nous a passionnés dans cette, mes confrères et moi. On avait en parlé avec Stéphane Covio. Bonjour Stéphane.
Bonjour Victor, bonjour
Stéphane,
à tous.
Stéphane, que vous allez, je pense, faire visiter cette exposition avec vous les Évoyés, non ?
Tout à fait. Tout à fait.
Vous avez déjà les dates ?
Oh oui, ça commence début octobre.
Très bien, on n'a pas encore dit quelle exposition c'était. Il s'agit de l'âge d'or de la peinture anglaise. L'âge d'or de la peinture anglaise. Alors il y a un sous-titre à cette exposition qu'on voit sur toutes les affiches. C'est de Reynolds à Turner. Alors évidemment, Turner est, je pense aujourd'hui, beaucoup plus connu que Reynolds en France, en tout cas, et dans le monde, parce qu'il a été considéré comme un peu un précurseur des impressionnistes. Et puis il a certains de ses tableaux plus tardif, disons, ressemblait beaucoup à annoncer peut-être même d'une certaine façon à la peinture abstraite. En tout cas, il y avait une très forte dramaturgie, une sorte d'éloignement du réalisme, du portraitisme et de tout ça. Alors ici, il ne s'agit pas de ça du tout. Nous sommes au début de l'exposition, nous sommes dans les années 1760. Hein, donc nous sommes avant la Révolution française, nous sommes en plein 18e siècle et nous sommes en fait en pleine période quand l'art anglais n'existe pas et même on se demande si l'art anglais, les Anglais eux-mêmes se disent qu'il y a une école anglaise, est-ce qu'on peut parler d'art anglais, etc. Donc ils sont assez complexés et deux personnes, Stéphane, se manifeste à ce moment-là de façon tout à fait spectaculaire. C'est évidemment Reynolds et Gainsborough. Hein. Notamment, avec au début de l'exposition, on voit ces portraits absolument sidérants, de grands portraits de femmes en pied. Ça
très
vous a
beau.
Impressionné, ça, ou non ?
Oui, ça m'a impressionné. Et pour moi, c'est un événement, cette exposition, parce que quand on parle de peinture anglaise en France, en fait, c'est une période qu'on ne découvre qu'à l'occasion des expositions. Ce sont des périodes qui sont très peu présentes dans les collections nationales. Donc, c'est vraiment lors des expositions qu'on les découvre. 1760-1820, c'est une période de 60 ans. Figurez-vous que ça correspond au règne d'un seul roi. Le roi George III, et qui n'est pas le plus long règne de l'Angleterre, hein, puisque avant lui, maintenant, il y a la reine Elisabeth et il y a la reine Victoria. Et il a régné, lui, 59 ans. Et c'est une période clé, puisque c'est, comme vous dites, c'est l'émergence d'une grande peinture anglaise. Jusqu'à ces années-là, il y avait des peintres en Angleterre, même des peintres intéressants, hein, mais il y a une efflorescence qui va se produire à partir des années 1760, avec des grands noms. Et on va pouvoir parler d'une école anglaise à partir de Gainsborough, Reynolds, et puis ceux qui vont suivre derrière.
Mais Reynolds et Gainsborough, est-ce que, parce qu'eux-mêmes se posaient la question, ils voulaient, enfin, leur problème à eux était que ne pas qu'on les confonde pas, quoi. Ce qui montre quand même une sorte de, enfin, je sais pas, une sorte de manque de personnalité quand même, hein, parce que vous pouvez pas dire, tiens, tel écrivain dit, je veux pas qu'on me confonde avec un autre, enfin, c'est très bizarre.
Hein. Vous savez, dans le registre de l'émulation, on aime bien se différencier. C'est pas si étonnant que ça que des artistes cherchent véritablement à se différencier l'un de l'autre. Alors, quand on regarde les tableaux, et c'est l'avantage de ce premier grand couloir de l'exposition, c'est que sont mises en vis-à-vis des grands tableaux de format à peu près équivalent, avec le même type de personnages, de Gainsborough et de Reynolds. Et là, on peut vraiment faire la différence entre les deux.
Dites-moi
les
en
deux
quoi concerne cette différence, en ce qui consiste cette différence.
Eh bien, écoutez, quand on voit, par exemple, il y a deux portraits, deux petits portraits. Alors, pour le coup, ce n'est pas des grands portraits, c'est deux petits portraits. Il y a un portrait d'un amiral anglais par Reynolds, qui est l'amiral Keppel, qui est d'ailleurs un de ses premiers clients importants. Il l'a connu en 1749, puisque c'est ce capitaine de vaisseau à l'époque qui l'a emmené en Italie en passant par Alger pour une mission diplomatique. Il a fait à l'occasion de cette traversée, ce long voyage, son premier portrait. Par la suite, il fera au moins 6 portraits de lui. Et donc, il y a ce portrait d'amiral, là, plutôt un des derniers portraits, puisque ça date des années 1770 passées. Voilà. On voit cet homme qui debout, on ne le voit pas en entier. J'ai été très attentif au col, par exemple, de le col blanc qu'il y a entre son cou et son vêtement. Et ce sont quelques coups de pinceau placés de façon quasiment horizontale, très épais, et on voit comment les poils du pinceau pénètrent dans la matière et on sent une grosse épaisseur. Et puis, quand on regarde la toile, on ne voit pas la trame de la toile, en fait. Quasiment à aucun endroit de ce portrait, on ne voit la toile. Et puis, juste à côté, vous avez un jeune homme, un jeune officier peint par Gainsborough. Et alors, c'est tout l'inverse. Vous devinez la trame de la toile un peu partout, la matière est beaucoup moins présente et vous avez des sensations de transparence beaucoup plus grandes. Vous regardez le même col, il a un col blanc aussi. Et là, c'est très intéressant parce qu'on a vraiment on peut passer d'un tableau à l'autre et voir comment c'est peint. Et on voit qu'il y a beaucoup moins d'épaisseur. Et on voit aussi que le geste est plus rapide. Chez Reynolds, il y a une peinture avec un geste plus enlevé, plus libre. Quand on regarde aussi la coiffure des personnages, on voit que chez Reynolds, pareil, il y a des coups de pinceau assez épais, avec une matière riche. Et quand on regarde dans la perruque de ce jeune officier peint par Gainsborough, au contraire, on a des transparences. C'est extrêmement léger. Et donc là, on voit vraiment deux styles de peinture différents. C'est intéressant parce que dans les autres grands portraits de la salle, on voit à quel point, d'une certaine manière, on peut associer la peinture de Reynolds à celle de Rembrandt. Et d'ailleurs, le premier portrait de l'exposition, c'est un autoportrait de Reynolds où il se peint quasiment en Rembrandt, à la manière de Rembrandt.
Mais c'est incroyable. Moi, j'ai pensé que c'était un Rembrandt.
Ah bah oui.
Mais c'est incroyable.
Ouais,
quoi. Ouais. C'est presque un pastiche, enfin.
Oui. Clairement, c'est un pastiche. Vous le mettez dans une exposition de Rembrandt et vous
me prenez,
tiens,
oui.
Un autoportrait de Rembrandt. Quasiment, ouais, parce que même le visage, il y a des ressemblances dans le visage.
Il y a des traits un peu épais. Voilà.
Et puis, mais il a été fasciné par Rembrandt. Hein. Il a été fasciné par la manière dont les artistes travaillaient le passage de l'ombre à la lumière, et particulièrement chez Rembrandt, où il y a beaucoup d'obscurité, une part importante d'obscur dans le tableau, au registre de la part éclairée. Et quand on voit les grands portraits de Reynolds, de Gainsborough qui sont dans la salle, personnellement, je pense beaucoup plus à Rubens ou à Van Dyck, qui sont la grande référence évidente pour cette période-là en Angleterre.
Mais vous ne trouvez pas, c'est un peu l'idée générale que je me suis dit comme ça, parce qu'après il y a des scènes de conversation, des scènes de famille, des scènes des familles entières qui posent, etc., et quelque chose de beaucoup plus immobile. Les personnages sont un peu figés, contrairement aux références hollandaises et flamandes dont vous parlez. Je trouvais ça un peu bizarre quand même. Hein.
Ben, c'est-à-dire qu'il y a quand même des grands portraits en pied, imposant, avec une volonté de...
Vous n'avez pas trouvé les visages figés comme ça? C'est très bizarre.
Je ne sais pas, il faudrait que vous me fassiez référence à un tableau en particulier, parce que ceux que j'ai regardés, au contraire, évidemment, peut-être que mon désir est allé davantage vers ceux qui étaient plus expressifs et plus libres. Moi, j'ai plutôt été attentif à des visages plus mobiles, plus habités.
Oui, parce qu'il y a des visages plus habités et d'autres... C'est que c'est ce côté où ils font des portraits de grandes dames, hein, qui sont des portraits visiblement des maris de ces dames. Hein, enfin bon, c'est des commandes et ils les font un peu, ils les idéalisent un peu, ils les figent un petit peu. Est-ce que ça vous a intéressé aussi? Parce que je trouvais ça un petit peu anecdotique. Toute la partie où sont les familles, vous savez, les portraits de famille, où il y a beaucoup de personnages. Alors, un coup c'est champêtre, un coup c'est dans un salon chez soi, un coup c'est un cours de dessin. Et puis des peintres qu'on connaît moins, par exemple Johann Zoffany, quelle impression ça vous a fait?
Moi, j'ai trouvé ça très intéressant, puisque c'est une période que je connaissais.
Vous connaissiez Zoffany?
Très peu, parce que je n'avais jamais entendu parler
moi
de ce Zoffany, qui
moi
est un Allemand et qui est un des très bons peintres de l'époque.
Oui, bien sûr.
Et moi, j'ai été très intéressé par cette salle où il y a les portraits de famille avec les enfants. C'est très vivant et vous vous souvenez peut-être du numéro de notre émission qui était consacré à Franz Hals,
oui, bien sûr.
À la Fondation Custodia,
bien sûr.
Avec des portraits de famille en plein air,
c'est
avec
vrai.
Des enfants. Certains tableaux qui sont présentés au musée du Luxembourg paraissent totalement en lien avec cet art particulièrement hollandais de disposer la famille de manière plutôt informelle dans un espace extérieur.
Oui, mais chez Hals, il y a une histoire dans le tableau. Ici, je ne suis pas sûr qu'il y ait des histoires.
Hein. Alors, écoutez...
Il y a une psychologie.
Il y a une psychologie. Il y a aussi des petites histoires. Il y a la famille dans le cadre de laquelle on accompagne la jeune fille qui est en train de dessiner, qui fait son apprentissage du dessin et de la gravure. Il y a une recherche de naturel. En fait, on est à cette époque-là... avec un goût qui se porte vers ce que les Anglais appellent la conversation piece.
C'est ça.
C'est très demandé à partir des années 30-40. Ça va être particulièrement renouvelé dans les années de l'exposition du Luxembourg. L'objectif, voilà, c'est de donner la sensation d'une scène naturelle où les gens conversent. Et là, vous avez toute une série d'exemples assez vivants sur ça.
Il y a un autre aspect très intéressant et où on voit aussi le travail de Gainsborough. Gainsborough n'était pas juste un portraitiste, il faisait aussi de magnifiques paysages. Enfin, c'était un artiste très accompli. Mais le paysage, justement, le paysage anglais, évidemment, c'est un sujet en soi. Le jardin anglais, déjà, c'est un jardin en soi. Et là, on a affaire à un autre grand personnage, bien sûr, de la peinture anglaise, c'est Constable. Constable.
Alors oui, pour expliquer à nos auditeurs, l'exposition porte particulièrement sur le portrait. Il doit y avoir à peu près les trois quarts des œuvres présentées qui sont des portraits. Et puis, il y a un dernier quart consacré au paysage. Beaucoup de peintres anglais se sont concentrés sur le portrait parce que c'était rémunérateur, c'était demandé.
C'était des commandes en général, des commandes, des familles. Quoi.
Et quelqu'un comme Gainsborough, qui est un amoureux du paysage, de la peinture de paysage, s'est forcé un peu pour faire davantage de portraits. Et néanmoins, il y a quelques paysages de lui. Et à la fin de l'exposition, vous avez un mur très intéressant où sont exposés 4 ou 5 tableaux. À gauche, vous avez un Constable, dont on dira quelques mots, qui est un paysage réel, une vue d'un domaine anglais avec un plan d'eau,
une espèce
de château en arrière-plan. Très, très belle chose de 1809. Vous avez un Turner qui est juste à côté, qui n'est pas du tout un Turner turnerien comme
on
s'attend
qui est étonnant
à le voir.
Ces Turner-là, je ne le connaissais pas.
Et puis, vous avez à l'extrême droite, il y a un Gainsborough. Et puis, à droite de ce mur, vous avez... Pour moi, un des tableaux les plus beaux de l'exposition. En tout cas, oui, je vais être particulièrement subjectif. C'est le tableau qui m'a en premier arrêté lors de cette visite d'exposition. J'étais absolument captivé par la lumière du ciel de ce tableau.
Quel tableau, dites-nous ?
C'est le tableau de Richard Wilson, qui est un peintre dont on parle peu en France.
Très peu, on le connaît pas.
Alors, figurez-vous que c'est un peintre qui a mal vendu son travail en Angleterre, qui a fini dans l'alcool et dans l'amertume, et qui en revanche a été extrêmement estimé par ses contemporains et peintres et par la postérité des peintres. C'est un peintre qui a réussi quelque chose d'extrêmement rare, et moi ça me saute aux yeux dans le tableau, c'est l'alliance entre le réalisme et le paysage classique. C'est un tableau dans lequel on a à peu près 2/3 de ciel bleu clair, évidemment dans la partie haute, et puis 1/3 de paysage en bas, avec une première rive sur laquelle on se trouve, et puis on voit la Tamise qui part vers la gauche, qui va vers le fond dans un méandre. Et puis au-delà de la Tamise, vous avez une deuxième rive sur laquelle se trouve, caché dans les arbres, un manoir aussi, Marble Hill je crois. Et vous avez à gauche du tableau un arbre avec son feuillage qui part de la première rive. À droite, un autre arbre ou deux autres arbres. Et vous avez une composition parfaitement équilibrée. Et la partie du ciel qui est au milieu entre les deux arbres s'éclaire très nettement. Et quand on s'approche, on voit à quel point le tour des nuages, donc ils sont plutôt à gauche et à droite, puisqu'ils disparaissent au centre. Il y a un proverbe anglais qui dit « Every cloud has a silver lining ». Et on a cette doublure d'argent, qui est plutôt une doublure blanche, là, qui est posée avec un pinceau extrêmement libre, avec une matière plus épaisse. C'est extrêmement virtuose et libre à la fois. Et je trouve ça étonnant parce qu'on a une sensation de classicisme dans le paysage par son équilibre et puis par tout ce qui nous renvoie à du Poussin ou à du Lolorin. Et on a quelque chose de très libre et une touche plus épaisse, un coup de pinceau plus relâché qui nous renvoie à une forme de modernité. Et vous avez aussi dans le tableau quelque chose de très paysage classique, c'est que alors que
il y a deux personnages humains,
il y a deux jeunes gens habillés de manière contemporaine, c'est-à-dire
fin 18e,
et il y en a un qui est en train de se dévêtir en bas pour se baigner, et on a là quelque chose qui renvoie au paysage classique parce que c'est un baigneur en fait, le thème de la baignade c'est un des grands thèmes ancestraux, donc vraiment une très très belle chose, très bel équilibre.
Absolument. Puis il y a aussi, je ne sais pas si, enfin moi je suis un grand admirateur de l'art animalier de manière générale, mais il y a aussi des animaux, il y a quelques chiens, quelques chevaux. Ça ne vous a pas impressionné, ça, je crois, non ?
Je ne les ai pas observés longuement. C'est une exposition à laquelle je vais retourner. J'ai vu effectivement qu'il y avait des chevaux de Stubbs, il y a des chiens aussi. J'attirais votre attention sur les chiens qui sont dans certains portraits.
C'est vrai, c'est vrai.
Il y a des chiens dans les
portraits.
Des chèvres
aussi.
Et notamment chez Reynolds.
Chez Reynolds, ouais.
On a évoqué des différences de style entre Reynolds et Gainsborough. On pourrait continuer. Reynolds, c'est un peintre qui est allé en Italie, qui a fait le grand tour et qui, dans ses grands portraits, fait souvent référence à des formes classiques. Il fait référence, par exemple, au portrait vénitien dans lequel les aristocrates sont présentés avec leurs chiens. Il donne aussi à ses personnages des poses de statues antiques, des poses que l'on voit ou bien chez Van Dyck. Son art est extrêmement référencé au grand art des périodes italiennes, notamment, voire même antiques. Et donc, on trouve les chiens dans ces endroits-là.
Il y a aussi un petit salon. L'exposition est petite, hein, on est d'accord.
Ah bah c'est le musée du Luxembourg, donc.
Le musée du Luxembourg.
Et pour moi, c'est l'avantage.
Mais ça m'a un petit peu gêné, parce que le sujet, déjà, avant d'y aller, je me suis dit, parce que moi, j'ai vécu à Londres, hein, donc j'ai beaucoup visité tout ça, je connais assez bien. Et ça me dit, tiens, traiter un sujet comme ça dans un petit musée comme le Luxembourg, je trouvais ça un peu étrange. Et en effet, c'est une petite expo, hein, c'est vraiment une petite expo. Mais disons quelques mots sur. Il y a une sorte de petit salon où il y a des aquarelles. Moi, j'ai été très impressionné par ces aquarelles, et vous ?
Oui, il y a quelques aquarelles. En fait, les Anglais sont les précurseurs dans le travail d'aquarelliste.
Bien sûr.
Constable en fait partie de ses précurseurs. Turner en a fait aussi, mais il y en a d'autres. Et là, vous avez un petit cabinet, en fait.
Il y a 5 ou 6 toiles.
Ça nous montre ce qu'a été le travail de l'aquarelle, notamment pour les paysagistes, bien sûr, puisque l'aquarelle, c'est de la peinture sur le motif. C'est important.
Oui, c'était des carnetistes. Ils voyageaient, ils s'arrêtaient avec leur carnet et faisaient ça. Enfin, c'est très. J'ai beaucoup aimé. C'est très très touchant. Il y a une vue d'une église. Enfin, tableau aquarelle de 1805 de Constable qui est vraiment je trouve impressionnant en tout point. J'ai une grosse déception. Je ne sais pas si vous la partagerez avec moi, mais la grosse déception, c'est William Blake. Moi, c'est William Blake, c'est un artiste que je mets très très haut. J'ai plusieurs livres chez moi de William Blake. C'était non seulement un dessinateur, un peintre, mais un poète aussi considérable. Et ici, on a 2 petits dessins et c'est tout. Hein. C'est très curieux.
En fait, la fin de l'exposition, c'est une ouverture sur le paysage fantastique, sur une dimension plus symboliste et fantastique.
Oui, ils appellent ça le peintre visionnaire.
Ouais. Voilà. Et donc, sont présents plusieurs peintres, notamment Turner aussi, John Martin, sur une vue assez extraordinaire de l'éruption du Vésuve et de la destruction
publique. On va en parler.
Mais personnellement, je me suis moins intéressé à cette section-là.
Mais vous n'aimez pas William Blake? Si,
j'aime bien William Blake, mais en fait, comment dire, l'exposition n'a pas voulu non plus tout explorer. Comme vous avez dit, le musée du Luxembourg est un musée qui n'est pas immense. Et on voit bien que les conservateurs ont privilégié la période précédente, avec notamment un point fort sur Reynolds et un point fort sur Gainsborough. Et puis des touches qui nous permettent de voir que ces deux grands peintres, dont beaucoup de gens connaissent le nom, ne sont pas seuls. Et là, on découvre Francis Coates, par exemple, avec ces deux tableaux absolument magnifiques. C'est intéressant parce que c'est un peintre qui est de la génération de Reynolds et Gainsborough et qui est mort jeune et qui, s'il avait vécu, aurait fait partie des grands de cette période-là. On découvre un dénommé Romney.
Romney, c'est extraordinaire. C'est,
avec des très belles choses.
Très belle chose.
Un dénommé
Martin.
Martin, qu'on voit à la fin. Hoppner. Enfin, voilà. Il y a Londres en 1760, c'est 740 000 habitants et 200 peintres. En 1820, c'est le double d'habitants et 1200 peintres. Donc, cette période, cet âge d'or anglais, c'est le moment où une foule de peintres vont apparaître. Le marché de l'art va être complètement transformé. Vous avez une grande variété de styles, une grande variété de noms. L'Académie de peinture est fondée en 1768. Elle va former de nombreux jeunes peintres. Et pour moi, c'est véritablement l'occasion de faire découvrir au public français quelques grands noms et d'ouvrir la porte sur d'autres choses. Donc on a des échantillons, d'une certaine manière, qui renvoient à l'art d'autres peintres.
Oui, oui. Mais William Blake, je veux dire quelques mots de William Blake pour nos auditeurs peut-être qui ne le connaissent pas. C'est un artiste effectivement du XVIIIe siècle qui était à la fois mystique, visionnaire, et il avait quelque chose de naïf aussi en lui. Et moi, je l'ai découvert parce que je savais qu'il était mystique de façon complètement bizarre. Enfin, il était mystique un peu à la façon presque d'un naïf français comme, je ne sais pas, comme le facteur Cheval, presque d'une certaine façon. Mais en même temps, c'était un dessinateur de grand talent et il était très influencé, j'ai découvert ça, par les idées des Lumières. Alors ça, c'est très curieux. Comment est-ce qu'on peut être un mystique chrétien et en même temps pétri des idées des Lumières ? Ça me paraît complètement bizarre, mais en tout cas, il a fait des choses vraiment, vraiment stupéfiantes. Alors, on a parlé un tout petit peu de Turner, qui est quand même le grand, enfin pour moi, c'est le grand personnage de la peinture anglaise. Et aussi, voilà, j'ai découvert, là, pour le coup, un certain John Martin. Et je trouve qu'ils ont fait... Il y a une peinture de Turner qui est apocalyptique, hein, qui est donc la destruction par Dieu de Sodome. Enfin, on dit Sodome et Gomorre, là, c'est juste Sodome. Et on voit, donc, Lot, ses deux filles et sa femme en train de partir. Et une peinture de Martin, tout aussi grande, John Martin, qui représente, elle, le sujet un peu, très proche, on va dire.
Oui, ce sont deux descriptions mémorables.
Et là, c'est Pompéi. Et y a, vous savez qu'il y a des gens qui pensent que Pompéi était une sorte de Sodome de son époque, parce qu'on a découvert des fresques, et les fresques sont non seulement érotiques, mais franchement pornographiques. Donc on se demande.
Il y avait des bordels à Pompéi, comme dans toutes les villes de l'époque. Hein.
Oui. Voilà. Et alors, est-ce que.
Même
est-ce,
dans celles qui n'ont pas été détruites par le feu divin.
C'est assez curieux, parce que moi, je pensais que Turner était unique dans son genre. Et ici, je trouve que Martin est très proche de Turner. Hein.
Oui, oui, oui. Et puis, on a une peinture qui renvoie à un certain romantisme. Moi, je trouve le tableau de Martin magnifique. Hein,
magnifique.
Et impressionnant, d'un point de vue de la couleur et des effets.
Et quelles couleurs ? On n'a pas vu ces couleurs. On ne connaît pas ces couleurs-là. On ne les connaît pas.
C'est très étonnant de voir ça.
Et moi, c'est quoi, cette espèce de rouge, une gamme de rouge.
Oui, oui, très vif dans l'image. Tant aussi bien qu'au premier coup d'œil, on a l'impression que c'est un tableau abstrait. On ne comprend pas très bien ce qu'on voit, mais ce sont les fumerolles, les jets de lave, etc., qui s'élèvent dans le ciel. Une chose qui m'a marqué dans l'exposition, vous parliez du rouge par exemple, c'est le grand portrait de l'actrice Sarah Siddons par Lawrence. Et quand je l'ai vu, alors que c'est un portrait qui date de 1804, quelque chose comme ça, j'ai eu la sensation de voir un tableau du 19e siècle français.
Absolument.
Avec des rouges à la Delacroix qui sont derrière. Et c'est intéressant de constater, quand on visite cette exposition qui va de 1760 à 1820, de voir à quel point ça, on n'est pas du tout dans l'équivalent de ce qui se passe en France. Il y a un énorme mouvement essentiel en France qui est présent et qui occupe les cimaises des expositions contemporaines, qui est le néoclassicisme. Il n'y a quasiment pas de néoclassicisme en Angleterre en peinture. Ce qui est amusant parce qu'au contraire, en architecture, il y a un néoclassicisme anglais très important et très précurseur au XVIIIe siècle. Mais dans la peinture, on ne le voit pas. Il n'y a qu'un portrait ou deux qui donnent la sensation de cette peinture très à la David, très apaisée, très ordonnée, très mesurée. Et là, on a quelque chose. On a un passage, j'ai envie de dire, de la fin de l'époque baroque, inspiré par des grands maîtres 17e, et puis on arrive petit à petit vers le romantisme en ne passant pas par le néoclassicisme qui a été quelque chose d'essentiel en France de manière contemporaine.
Mais quand on voit ce tableau de Turner et puis celui de Martin aussi, qui précède en fait la grande époque, disons, de Turner, où il faisait ces choses presque abstraites, enfin, qui sont étaient très étonnantes, ces paysages marins notamment, qui sont complètement ahurissants. Mais est-ce qu'ils avaient déjà, Turner et Martin, avaient déjà quelque chose d'un peu avant-gardiste, enfin, et quelque chose, je ne vois pas.
Ah oui, oui, mais de toute façon...
Quand on voit la différence entre ça et Reynolds, c'est le ciel, c'est
ah oui,
la terre et la
mais
lune.
Mais on est passé d'une époque à une autre. Entre le début de cet âge d'or, qui est encore typiquement 18e siècle, et la deuxième partie, après 1800, et en fait, on est en pleine avant-garde. Là, vous évoquiez le côté extraordinaire, fantastique, mais le côté réaliste, c'est déjà l'avant-garde.
Le
tableau de Constable qui nous présente ce paysage anglais très réaliste, très libre, peint en plein air, vraisemblablement. On est en 1809 et beaucoup de spécialistes de Constable.
Il y avait déjà les peintures en tube.
Alors, je ne suis pas encore certain, mais en tout cas, ce paysage Constable l'a peint vraisemblablement en plein air. Et du coup, vous avez la réalité, la nature qui apparaît dans la peinture, avec toute la vivacité du réel, avant cette intervention de la réalité en France. En 1824, Constable présente un tableau au salon à Paris, il est médaillé d'or, et ça va avoir une très forte influence sur la génération française.
Voilà, donc c'est une exposition à voir, même si elle n'est pas très grande. Elle mériterait, le sujet aurait mérité une plus grande exposition, je pense.
Ah bien sûr, si cette exposition avait eu lieu au Grand Palais, on aurait beaucoup plus d'œuvres et ça serait beaucoup varié. Mais là, on a vraiment un beau point de vue sur une période clé de l'histoire de l'art en Angleterre.
Très bien. Donc, on a parlé de l'âge d'or de la peinture anglaise au musée du Luxembourg, donc de Reynolds à Turner. Magnifique exposition, un peu petite peut-être à notre goût, mais néanmoins qui permet de découvrir des choses à ceux qui ne connaissent pas, etc., etc. Et puis, je recommande très chaleureusement une publication chez Gallimard, de ce sort de catalogue, un petit livre à 9 euros qui représente très, très bien et qui est un vrai petit chef-d'œuvre à lui tout seul. À demain.